Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa, c'est l'interview et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Monique Sirène. Bonjour.
Bonjour, je suis très contente de venir.
Monique Sirène, vous êtes ici pour nous parler de deux choses. La première étant la sortie d'un CD avec des compositions reprises par vous-même et Catherine Bernardini. Et vous en parlerez lors de cette émission. Et aussi pour un événement qui aura lieu ce samedi 19 août à 20h30 à la cathédrale de Die. Ça sera un concert italien avec Mozart. Avant de commencer, nous allons peut-être lancer l'émission avec une première écoute donc d'un morceau de Gluck. Alors Gluck, nous le présenterait à la suite de l'écoute. Et donc nous commençons. Respire. Voilà, une première écoute de ce disque. Donc, Monique Sirène, vous interprétez au clavecin ces compositions de compositeurs très différents et accompagnée donc au chant par Catherine Bernardini, soprano. Pour vous, ce désir de composer ce disque, c'est un hommage, j'imagine, à ces compositeurs. Ces œuvres qui sont proposées sont déjà orchestré pour clavecin également.
On a fait une adaptation au clavecin. Ce sont des extraits d'opéra du 18e, Gluck. C'est un hymne à l'amour chanté par une femme. Celle-ci est amoureuse d'un homme qu'elle ne peut avoir. Il finit par l'obséder, la hanter. Elle est dans l'attente perpétuelle d'un geste de sa part en vain. Elle vit alors dans l'espérance qu'un jour son amour sera partagé. Et dans le disque que nous avons fait ensemble, soprano et clavecin, le titre c'est « Chant d'amour ». Nous avons fait ce récital au monastère de Sainte-Croix en 2021 et au temple de Grannes en 2022.
Voilà, ce désir pour vous de produire cet album avec Catherine, quelle était cette motivation C'était de partager des morceaux peut-être moins connus déjà.
Mais je connais Catherine depuis au moins 17 ans et j'ai vu sa carrière s'épanouir de plus en plus et on a voulu un peu fixer les choses à un moment. Un moment d'ailleurs très caractéristique vu que c'était le moment où elle n'avait plus de contrat, c'était le moment du Covid. Je lui ai téléphoné. Et je lui dis, mais tu ne t'ennuies pas ? Il me dit, si, je ne sais pas quoi faire, viens chez moi. Et on a monté un programme. C'est à l'origine de ce disque. Et on est très content de l'avoir fait. Et on espère vraiment pouvoir partager ces heures vraiment très, très bonnes que nous avons vécues ensemble. Et nous avons laissé une partie des disques donc à la librairie Mosaïque pour que chacun puisse partager ces jolis morceaux italiens.
Le premier extrait que nous avons écouté donc est de Gluck. Peut-on présenter ce compositeur ? De quelle époque est-il ?
18e, opéra du 18e. Et un peu, oui, opéra du 18e.
Tous les titres sont en italien, c'est un parti pris aussi de ces chants. Est-ce qu'il y a une école italienne de ce type de chants ou alors aussi, à cette époque contemporaine d'alors, il existait aussi des registres dans les langues allemandes, peut-être françaises aussi? Qu'en dites-vous?
C'était le désir de Catherine de chanter tous ces airs qui lui conviennent à merveille et en même temps qui conviennent au clavecin, l'époque du clavecin, 18e, vous voyez. Et donc, on a Scarlatti, Caldara, on a vraiment même un Handel qui n'est pas vraiment italien, mais Piangero, c'est vraiment quand même italien. Les paroles sont italiennes. Et vraiment, c'est un répertoire qui va très très bien à Catherine.
Le chant italien donc, est le mieux adapté, selon elle, pour pouvoir s'exprimer.
Bien sûr, oui, avec la voix qu'elle a, très souple et tout ça. Je pense que c'est ce qui est de mieux. Et en plus, maintenant, elle va vers l'opéra. Elle va à Lyon, elle va à Genève, elle va à Saint-Étienne, dans les opéras. Et elle a des rôles maintenant vraiment particuliers, vraiment. Et elle fait une carrière très intéressante actuellement.
Cet enregistrement d'ailleurs a été opéré par Pascal Descamps. Oui. Peut-on présenter c'est un ingénieur simplement ou il est aussi mélomane, musicien ?
Il est musicien, il organise plein de concerts. Il est pianiste et il est ingénieur du son aussi.
Il y a 11 compositions proposées.
Oui, c'est surtout Catherine qui lui convient bien ce qui lui convient bien pour la voix et surtout ce qu'elle exprime, parce qu'elle est très théâtrale, Catherine. Et au cours de notre deux récitals, elle exprime énormément tous ses chants, un chant dramatique, mais un chant très coquin, comme celui qu'on va entendre après.
Spesso vibra per il suo gioco, c'est ça?
Oui, le petit Cupidon lance ses flèches dans tous les sens. Le Cupidon, c'est le dieu de l'amour, mais il manque ses cibles à chaque fois. Et elle faisait vraiment des gestes pendant le récital d'envoyer des flèches.
Eh bien, nous allons l'écouter. Hein,
bien sûr.
Voilà, donc nous écoutions Scarlatti avec Cupidon. Donc, Monique, tout à l'heure, vous disiez donc réinterpréter ou réarranger ses compositions. Cela veut dire qu'elles n'étaient pas forcément écrites pour le clavecin à l'accompagnement. Et donc, c'est votre travail de pouvoir réinterpréter cette partition musicale.
Oui, tout à fait. C'était évidemment accompagné par orchestre, extrait d'opéra. Et donc, on a fait des adaptations pour clavecin. Et donc, le clavecin est d'époque aussi. Cette époque-là, il y a beaucoup de clavecin. Voilà.
Comment s'opérait justement cette transformation, cette adaptation par vous et Catherine? Un morceau tel qu'on vient d'écouter de Scarlatti, donc la musique étant pour orchestre, est-ce que vous passez d'abord aux écoutes de ce qui existe, ou alors est-ce que d'emblée vous amenez toutes les deux vos compétences et votre savoir-faire?
On écoute bien sûr ce qu'il y a avec orchestre. Et puis, ma foi, on travaille en osmose toutes les deux, et d'après l'expression qu'elle veut donner et d'après ce qu'on peut faire sur clavecin, bien sûr. Mon clavecin étant une copie d'ancien, vraiment très, 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 très intéressant comme son. Le meilleur son qu'il puisse y avoir, un Blanchet. C'est un clavecin français, mais de cette époque, 18e. Donc ça convient bien pour ces morceaux.
Quand vous dites des clavecins tels le Blanchet, est-ce que chaque génération de clavecins, selon les époques, avait des sonorités différentes, voire même un clavier plus ou moins élargi?
Oui, bien sûr. Les clavecins espagnols sont très, très étendus pour jouer solaire. Des clavecins Blanchet un petit peu moins étendus pour musique française et italienne. Si on met plusieurs jeux, et ça sonne assez fort. Voilà.
Nous écouterons à la fin de cette émission le dernier extrait. Il s'agira d'une composition de Vivaldi, Vedrò col mio diletto, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Alors, pareil, ça c'est certainement une composition pour orchestre. Combien de temps prend ce travail pour chacune de vous et ensemble?
Beaucoup, beaucoup. Là, on avait le temps en juillet 2022. On a travaillé chacun de notre côté avec, bien sûr, une mise au point de tempo, bien sûr, et beaucoup d'entraînement pour entendre les ralentis ou les accélérations. Voilà. Et donc, ce morceau se traduit avec joie. Je vais voir l'âme de mon âme, le cœur de mon cœur. Et si de lui je suis éloignée, je soupirerai et souffrirai à chaque instant.
Vous êtes ici également pour nous parler donc du concert italien et Mozart qui aura lieu donc à la cathédrale le 19 août à 20h30 à 10. Et donc seront proposées deux pièces vocales de Monteverdi, deux airs italiens pour soprano et un concerto pour deux trompettes de Manfredini. Oui. Et puis ensuite, trois pièces de Mozart, Misericordia, Regina Coeli et le Tédéum, chœur et cordes. Et pour cela, d'ailleurs, il y aura un chœur très imposant à
oui,
écouter.
Tout à fait. Nous allons travailler avec 90 choristes qui viennent de la France entière, et même quelques Belges et quelques Suisses. Qui sont habitués à venir tous les ans au mois d'août pour travailler 8 jours ensemble. Et dans la salle polyvalente, nous allons travailler donc à partir du 12, dimanche 13 août. Nous commencerons à 9h le matin et toute la journée, nous travaillons donc les répertoires. Bien sûr, Monteverdi et Mozart, surtout, voilà.
Comment s'organise l'affluence de 90 choristes sur un endroit issus de toute la France? Comment se prépare-t-il cet événement?
Au départ, j'ai travaillé beaucoup en région parisienne et c'était mes choristes qui voulaient me rejoindre pendant les vacances. Et puis ça a fait un peu boule de neige et ils sont contents de venir dans ces montagnes aussi. Et aussi pour travailler, évidemment, bien sûr. Un répertoire un peu difficile quand même. Le Tédéum de Mozart, c'est pas rien. Et des choses un peu originales aussi, comme le Laudate Dominum de Monteverdi, qui se trouve à deux chœurs. Et on essaiera de faire comme à Venise, d'avoir un espace son, travailler sur espace son avec deux chœurs qui se répondent dans la cathédrale. Ça va être une expérience très intéressante. Et ils travaillent beaucoup avant de venir d'ailleurs pour trouver ce répertoire. Ils ont les partitions depuis quelques mois. Ils ont déjà travaillé quand ils viendront. Et donc le dimanche 13 août. Et nous travaillerons toutes les journées entières. Et nous irons bien sûr au restaurant. De temps en temps, on va se réjouir. Et on fera du Qigong aussi pour se mettre en forme. Et c'est dans la bonne humeur et que nous nous retrouvons tous avec joie. Et c'est dans l'amitié et voilà, beaucoup de sentiments chaleureux.
Pour ce qui concerne l'hébergement, c'est prêt aussi ou...
Oui.
Il n'y a pas de demande à formuler pour l'accueil, justement?
Mais chaque choriste s'est déjà inscrit depuis le mois de janvier. Soit dans un hôtel, dans un gîte, au camping. Et donc, ils ont déjà prévu tout ça. Et du coup, voilà, et on se retrouve.
Il y aura un concert du stage MECDT.
Oui.
Quel est-il?
Ah, ça veut dire musique et chant d'été. Le titre a été choisi depuis longtemps. Et avant, on était dans le Lot. Et donc là, nous fêtons vraiment presque une vingtaine d'années à 10. Et donc, musique et chant d'été. Il y a une équipe parisienne qui s'occupe de la logistique, et de rassembler les choristes par Internet. Il y a donc le site de musique et chant d'été où on peut trouver tous les renseignements et toute la liste. Bien sûr, des choristes, des musiciens, quatuor à cordes qui va venir, les deux trompettistes anglais qui seront mis à l'honneur, ainsi que Catherine qui sera la grande vedette de ce concert. Et nous ferons la veille le même concert. Nous clôturerons le festival de musique sacrée à Cré la veille.
Le 18 août.
Voilà, le vendredi 18, c'est ça.
Donc toute cette saison 2023 hein, qui a débuté le 2 avril est portée par l'ami de l'orgue Adi, les amis de l'orgue Adi et l'association Di Cantate également. Quel est votre bilan de cette année hein, puisque c'est quasiment l'avant-dernier événement avant celui de décembre sur ces concerts dédiés à Bach par exemple à la cathédrale de Die. D'ailleurs c'est toujours à la cathédrale de Die avec le concert italien également du 20 mai et le concert Monteverdi. Est-ce qu'il y a un public fidèle
Oui, tout à fait.
Il y a une demande aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc le 2 avril avec Zoé Galmiche et Florent Chapelle et surtout
Joseph Kosman oui. Et Vincent Lefort.
Voilà, Vincent n'était pas présent, mais Joseph Kosman est très connu maintenant. Il fait des récitals un peu partout, à Lyon, à Cray. Et donc, le 2 avril, c'était un grand événement de Monteverdi. Et on avait changé un peu la disposition de la cathédrale. Est-ce que pour le 19 août, nous arriverons à retourner la disposition de la cathédrale? Je ne suis pas sûre, parce qu'il faut une mise en place logistique énorme. Mais nous veillons bien à ce que l'acoustique soit correcte dans cette cathédrale où c'est parfois difficile. Mais nous faisons des expériences et croyez-moi que nous veillons à ce qu'on entende bien les sons de partout.
Vous-même êtes à la direction hein, de cette soirée du 19 août.
Oui, tout à fait, bien sûr. Donc je vais diriger le concert. Je serai au clavecin aussi pour le concerto des deux trompettes et cordes. Et puis j'accompagnerai bien sûr Catherine dans les deux extraits de notre disque. Et puis la deuxième partie sera consacrée au choral. Donc Misericordias et le Regina Celli dans lequel Catherine va aussi chanter un air de bravoure, mais magnifique ce Regina Celli est vraiment une merveille. Et puis nous finirons par le célèbre Te Deum avec les trompettes et ça va être formidable. Mais nous voulons vraiment l'adapter à tous les Diois, voilà, avec des facilités qu'ils puissent venir écouter toute cette musique qui est enchanteresse. Et Catherine et les chœurs, voilà.
Voilà pour cette présentation de saison hein, qui aura lieu donc ce 19 août. Pour le disque, comment se le procurer ou du moins l'écouter?
Oui, alors le disque, donc, nous avons laissé quelques éléments à la librairie Mosaïque. Nous sommes en relation toujours avec cette librairie et qui permet de distribuer ces disques. Donc voilà, et je vais passer de temps en temps pour voir.
Il y a cette billetterie aussi qui est mise en place déjà.
Oui, tout à fait. Il y aura aussi une prévente le samedi 19, le matin, lors d'une répétition. Il y aura donc des personnes bénévoles qui vont prendre les billets à 10h le matin, entre 10h et midi, donc samedi 19, dans le porche de la cathédrale.
Pour la prise de billets, donc, il y a de quoi, il y a des coordonnées pour vous joindre ou vous contacter?
Oui, je peux donner un numéro de téléphone, celui de la trésorière, 06 28 28 66 99. Et vous pouvez donc réserver des places à ce numéro.
Catherine, bonjour.
Bonjour Yves.
Catherine Bernardini, vous êtes donc chanteuse lyrique, mais aussi comédienne. Ce concert de la cathédrale de Die et du fête de Monique Sirène.
C'est ça. Donc chaque année, Monique organise toujours des stages d'été avec donc des choristes amateurs qui souhaitent participer et monter des programmes en quelques jours seulement, ce qui est absolument incroyable. Et elle déploie beaucoup d'énergie pour ça et c'est remarquable le travail qu'ils font sur moins d'une semaine pour monter un énorme programme en fait. Et cette année, donc, c'est autour de Mozart, notamment. Il y a des Italiens aussi. Et plein de petites surprises. Vous découvrirez le programme, voilà, le 19, en fait. C'est à 20h30, à la cathédrale. Et je me fais toujours une joie chaque année de. Voilà, elle me sollicite pour participer à cet événement et j'en suis toujours ravie. Je prends beaucoup de plaisir à chanter avec tout le monde, avec le petit ensemble aussi à cordes, les trompettistes, il y a un pianiste aussi. Enfin, voilà, c'est toujours un moment très agréable de chanter avec eux. Voilà.
Vous-même, Catherine, est-ce que vous transmettez votre savoir du chant lyrique aussi? Et est-ce que vous organisez parfois des stages ou des rencontres autour de cette transmission du chant, notamment à
Alors,
Crest, par
ben pour
exemple?
oui, pour vous dire vrai, je donc pour l'instant, donc je n'ai pas trop de temps pour enseigner, en tout cas faire organiser des stages ou faire des masterclass ou donner des cours de chant dans des écoles. Je n'ai pas encore l'occasion de ça pour la simple et bonne raison que je suis en fait tout le temps sur scène. Voilà, donc je vis vraiment exclusivement de cette passion. Et voilà, donc je suis tout le temps sur scène par monts et vallées. Voilà. Donc vous disiez tout à l'heure aussi comédienne, évidemment, parce qu'à l'opéra, en fait, c'est du théâtre, hein, c'est du théâtre chanté. Donc voilà, j'incarne des rôles, des personnages travaillés. Là, ce qui ne sera pas forcément le cas d'ailleurs le 19 août, parce que c'est un programme, il n'y a pas de rôle d'opéra là. Donc je ne serai pas dans un costume et maquillée. Comme au théâtre, mais voilà, ce seront des airs de concert. Voilà.
Vous parlez donc d'opéra, de comédienne. Vous avez notamment joué Eurydice dans Orphée et Eurydice, hein, du
Oui, tout
compositeur
à fait. Oui.
Christoph Willibald Gluck. Et donc,
C'est Gluck, oui, tout à fait.
pour vous, quel était cet attrait de ce rôle d'Eurydice?
Alors, Eurydice, ça remonte à un petit moment.
En 2017.
C'était en 2017, celui-ci. Alors, il faut que je me souvienne, hein, parce que en même temps, j'étais en train de préparer Cho-Cho-San, Madame Butterfly de Puccini. Donc, j'avais deux rôles dans la tête et dans le corps à ce moment-là. Et c'est vrai qu'entre la musique de Puccini et la musique de Gluck, c'est pas tout à fait la même époque non plus. Donc, c'est pas tout à fait le même gosier non plus. Donc, c'est-à-dire la même façon de chanter. Donc, j'étais un petit peu, voilà, j'étais habitée, on va dire, hein, avec plusieurs personnages dans la tête. Donc, c'est malheureusement les coulisses d'une chanteuse d'opéra. On a plusieurs âmes dans la tête à faire évoluer. Voilà le souvenir que j'en ai. Mais c'était un très bon moment. Eurydice à Bourg-en-Bresse, au monastère de Brou, exactement. Et c'était magnifique. Très bon souvenir.
C'est le chant qui guide le personnage ou alors il y a aussi votre jeu de comédienne qui influe sur le chant?
Oui, je pense que c'est un tout avec les émotions. Et puis au théâtre, donc on est aussi guidé par un metteur en scène qui a lui aussi une idée de ce qu'il veut faire de son opéra et du livret et des personnages. Donc il y a pas mal de dialogues quand même et de communication avec le metteur en scène et également aussi avec le chef d'orchestre qui lui aussi a son idée de l'ouvrage et du personnage. Donc il y a aussi un dialogue avec tout ce monde-là. Voilà. Et moi aussi personnellement qui essaye aussi de défendre quelque chose de. Voilà, d'intime avec mes émotions, avec mon sens musical et ma voix. Voilà, on essaye de créer un rêve, un petit peu.
Voilà, et donc pour ce samedi 19, il y aura un récital que vous donnerez avec les élèves du MECDT. Et puis vous serez accompagné de deux trompettistes, donc Brian Moore et Lewis.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qui sera proposé pour ce petit récital, entre autres?
Alors, donc, on va chanter ensemble et jouer ensemble le Regina Celli 108 de Mozart, qui est une jolie pièce. Il y a aussi le chœur derrière qui me donnera la réplique. Et puis ensuite, on va chanter avec Monique aussi. Elle se mettra au clavecin. Pour m'accompagner dans des airs antiques, c'est des airs extraits en fait du CD qu'on a enregistré il y a un an. Donc il y a du Vivaldi et puis du Gluck aussi prévu. Voilà.
Qu'est-ce que représente Mozart pour un chanteur lyrique ou une chanteuse lyrique comme vous?
Alors Mozart, moi c'est vraiment mon ami, on va dire, depuis que je suis toute petite. C'est un compositeur qui m'a fait rêver tout de suite, qui m'a fait palpiter tout de suite. Et je ne pensais pas pouvoir un jour pouvoir l'interpréter et d'en faire mon métier, je veux dire, avec la voix, de pouvoir chanter ça sur scène et de défendre des rôles tels que Pamina dans La Flûte enchantée ou Fiordiligi dans Così fan tutte. Ou plus récemment, j'ai fait La Comtesse aussi dans Les Noces de Figaro. Et quelle joie, la musique de Mozart, c'est une vraie joie à interpréter. Et extrêmement difficile aussi pour le son, comment dire, le son doit être très rond, la respiration très longue, et le son très très pur. Donc c'est beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'années de travail pour chanter Mozart. Et souvent, dans les auditions pour avoir du travail dans les maisons d'opéra, on nous demande de chanter un air de Mozart. Parce que c'est là qu'on voit justement si un chanteur maîtrise bien son instrument ou pas dans du Mozart. C'est assez révélateur d'une bonne technique.
Est-ce que pour vous, en quelque sorte, Mozart a créé une certaine modernité dans la manière de jouer, d'interpréter?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il était en effet visionnaire sur beaucoup de. Il a fait de la musique quand même pour son époque assez contemporaine. Je pense par exemple à cette ouverture de Don Juan. Oui, ça a fait un flop total à l'époque parce que c'était beaucoup trop contemporain. Les gens n'étaient pas prêts à entendre ça. Donc oui, il était visionnaire sur beaucoup de choses, même dans sa façon de vivre et dans sa façon aussi de tenir tête aux gens avec lesquels il travaillait. Enfin voilà, il était quand même un petit peu rebelle. C'était un indocile et on le ressent aussi dans sa musique. Déjà à l'époque, c'était compliqué d'être compositeur. Bon, les choses n'ont pas changé ou très peu évolué à ce niveau-là, mais il a apporté beaucoup de nouveaux, oui, beaucoup de choses nouvelles à l'époque, oui.
Vous parlez de notre époque où les choses ne sont pas si aisées aussi pour les compositeurs. Est-ce que vous pourriez
Oui.
nous dire en quoi? Est-ce que de ce fait, il y a un travail aussi à accomplir au niveau du chant aujourd'hui?
Alors, je parle de musique en général, hein, de création. Je pense notamment à des compositeurs donc contemporains du fait qu'ils sont vivants et qu'ils sont là actuellement en train d'écrire de la musique. C'est pas forcément de l'abstrait ou de la musique expérimentale, hein. C'est vraiment, je pense par exemple à un ami, celui qui a fait d'ailleurs l'enregistrement et le mixage du CD qu'on a fait avec Monique, qui s'appelle donc Pascal Descamps et qui est compositeur lui aussi. Et c'est extrêmement difficile maintenant de se faire entendre en tant que compositeur et d'en vivre, de se faire respecter aussi. Et de se faire inviter dans des maisons pour défendre et voilà, faire entendre sa musique, c'est encore compliqué de nos jours. Apparemment, il y a toujours comment dire, une renommée qui vient plus tard. Il faut attendre d'être voilà, de franchir un cap du vivant pour pouvoir être reconnu quelque part. On en est encore là par moment.
Est-ce à dire que le mécénat aujourd'hui est moins engagé ou peut-être
Oui.
moins mélomane aujourd'hui?
Alors, moins mélomane, je ne sais pas. Moins engagée, c'est certain. Et puis, bon, c'est comme tout, il y a des tendances. Il y a des tendances, il y a des modes. C'est comme dans la peinture, hein, également, il y a des modes. Et la mode, actuellement, est au concept. C'est du concept, c'est de l'abstrait, et des choses pas forcément avec du sens d'ailleurs, hein. Le sens n'est pas à l'honneur, la profondeur, la réflexion, le rêve, les étoiles. Il y a peu de place pour les poètes à l'heure actuelle. Enfin, c'est mon avis, hein. Ça ne regarde que moi, hein. Mais je pense que du coup, les mécènes se perdent dans ce monde qui va trop vite, où les choses sont à la rentabilité, à la performance.
Et au court terme.
Et exactement, et au court terme. Et du coup, voilà, les choses plus authentiques, plus profondes, plus lentes aussi, avec du rêve, un peu de poésie, un peu d'écoute, un peu de regard sur les choses, sur des tableaux, ou de prendre le temps d'écouter de la musique. Ce n'est pas trop à l'ordre du jour, malheureusement, mais j'espère que ça va revenir. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. C'est pour encore toucher les gens qui ne soient pas toujours derrière leurs écrans et de sortir un petit peu et de revenir à des sens, de revenir à des sens plus authentiques. Oui.
Nous allons parler aussi de ce CD donc, que vous avez préparé avec Monique. C'était au lendemain hein, des confinements du Covid. Il y avait un petit peu de latence, de temps mort à ce moment-là. Et vous en avez profité pour vous retrouver et de pouvoir réinterpréter, réarranger des compositions. Justement, on en parlait avec Monique. Comment adapter une composition ou une partition d'une époque avec des instruments autre aujourd'hui, et ça c'était un enjeu pour vous aussi, pour adapter à votre voix et à l'instrument de Monique.
Oui, tout à fait. On a préparé donc ce programme pendant les confinements, où on était derrière notre téléphone, enfin bon, bref, on partageait comme on pouvait nos musiques, et on avait quand même décidé, dès qu'on avait une petite marge de sortie, une possibilité de sortie, on se rencontrait pour déchiffrer je ne sais combien de morceaux de cette époque baroque italienne. Et donc, on a monté un petit programme avec clavecin. Donc, c'est vrai qu'il y a des réarrangements où il a fallu qu'elle joue un petit peu avec les différents jeux, d'ailleurs, de son clavecin, qui a un son brillant et à la fois rond et chaud. Donc, on a travaillé là-dessus, on a choisi, on s'est mis d'accord sur le choix des morceaux, parce qu'il y en a au moins une centaine, si ce n'est pas plus. Donc, il a fallu en choisir malheureusement qu'une vingtaine pour pouvoir monter un programme. Et c'est vrai qu'on a décidé de faire un CD. En fait, c'était pas prévu à la base, mais à force de donner des concerts à Die, à Grane, à Cré, à Sainte-Croix également, le public toujours fidèle, hein, toujours chaleureux, le public diois, nous demandait à chaque fois « Ah, c'est dommage, il n'y a pas un CD, c'est dommage. » Donc, on s'est dit « Ok, on va faire un CD, puisque tout le monde nous demande, c'est fantastique, c'est l'occasion. » Donc, on a fait ça l'année dernière en sélectionnant encore un petit peu plus et puis en travaillant vraiment de façon plus minutieuse aussi pour le studio d'enregistrement. Mais on a été très bien guidé aussi par Pascal Descamps, hein, qui nous a fait un travail remarquable de son et de montage, etc. Donc, on a pris beaucoup plaisir à faire ce CD ensemble avec Monique. On se connaît depuis très longtemps. On chante ensemble, on joue ensemble depuis longtemps, on s'entend très bien. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Et le Diwa, je pense, a de la chance aussi d'avoir quelqu'un comme ça pour monter des projets classiques, pour faire découvrir cette musique-là aussi. Avec peu de choses, avec peu de moyens, on peut aussi faire de bons projets. Il n'y a pas que les maisons d'opéra, heureusement.
Catherine Bernardini, je vous remercie en tout cas de nous avoir C'est donné moi. Un peu de votre temps pour nous parler donc de ce concert et puis de cette sortie de CD.
Je suis ravie, merci Yves, hein, de votre invitation.
Bonne journée à vous.
Merci Yves.
Au revoir.
Au revoir.
Monique Sirène, il y a ce disque donc intitulé Arié Antique. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
Oui, mais... bien sûr.
Et donc, cette illustration émane donc de cet artiste qui s'appelle Éric Ancet.
Oui, tout à fait. C'est le mari de Catherine. Il est peintre. Il fait beaucoup d'expositions. Il vend aussi ses tableaux. Et il travaille beaucoup sur les corps, le corps, l'extension du corps et l'imaginaire avec...
Un peu de symbolisme aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Et c'est magnifique. Il a une technique qu'il a retrouvée depuis Rembrandt. Et bien sûr, adaptée à nos temps modernes, mais avec des fondus de couleurs extraordinaires. Et moi, je vais toujours à ces expositions parce que c'est magnifique.
Ce sont des toiles d'une taille de quel ordre ?
Oh, ça peut être très grand. Oui, elles sont assez conséquentes, ces toiles.
Monique Sirène, en tout cas, merci d'être venue sur RDIWA. Et nous allons nous quitter donc avec le dernier extrait de Vivaldi que vous avez présenté précédemment. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.